plus qu'elle n'avait pas davantage l'odeur du brave gringo. Ça sent le café, avait déclaré Edward Bancho après avoir lui aussi humé la boîte. Quoi qu'il en soit, les chiens de la tente, eux, y étaient indifférents. Peut-être s'y mêlait-il un relent pharmaceutique. Ils ont horreur de tout ce qui sent le médicament, disait Estrella. À moins que cette odeur indéfinissable ne fût celle du nez de la Vierge Marie. En tout cas, c'est pas celle de Blancsal, avait toujours affirmé Loupé, qui reniflait les cendres tous les soirs avant de se coucher. Sans doute aimait-elle humer le contenu de la boîte, parce qu'elle le disperserait bientôt à jamais, et qu'elle tenait à garder son odeur en mémoire. Peu de temps avant que le cirque de la merveille ne prenne la route de Mexico, c'était un long voyage pour une caravane de camions et d'autocars. Elle emporta la boîte à café à un dîner auquel ils étaient invités chez le docteur Vargas à Oaxaca. Elle attendait un avis scientifique sur l'odeur des cendres, confia-t-elle à Juan Diego. « Mais c'est une soirée, Loupé !» lui rétorqua-t-il. C'était le premier dîner auquel ils étaient conviés. De toute évidence, ils ne devaient pas leur invitation au docteur Vargas. Frère Pépé avait abordé avec lui ce qu'il appelait l'épreuve spirituelle d'Edward Bancho. Quant au médecin, l'idée ne l'effleurait pas. Il avait même vexé Flore en suggérant à Seigneur Eduardo que la seule raison de s'inquiéter dans une relation avec un travesti prostitué était d'ordre médical. Il parlait des maladies sexuellement transmissibles. En multipliant les partenaires, Flore aurait pu en attraper de toutes sortes à leur contact. Le docteur Vargas se fichait pas mal qu'Edward Bancho ait dû renoncer à sa vocation ecclésiastique et ait rompu ses vœux de chasteté. « La seule chose qui m'importe, c'est que votre bite reste en place et qu'elle ne prenne pas une couleur vert pomme ou je sais pas quoi. » Cette réflexion avait offensé Flore, qui avait refusé de se rendre au dîner de la Casa Vargas. À Oaxaca, ceux qui avaient une dent contre Vargas appelaient sa maison la Casa Vargas. Certains le jalousaient pour sa fortune, d'autres lui reprochaient de s'être installé dans la demeure de ses parents trop vite après leur mort dans un accident d'avion. Depuis le temps, tout le monde connaissait l'histoire de l'accident, et le fait qu'il aurait dû, lui aussi, se trouver dans cet avion. Enfin, il y avait ceux à qui déplaisait son côté cassant. Maniant la science comme une matraque, il n'avait pas son pareil pour vous démolir avec une remarque strictement médicale, tout comme il avait réduit Flore à une maladie sexuellement transmissible. Eh oui, tel était Vargas. Frère Pépé le connaissait bien, il savait à quel point le docteur pouvait être cynique sur tout et n'importe quoi. Mais il considérait que les deux enfants et Edward Bancho pouvaient tirer parti de ce cynisme. C'était la raison pour laquelle il avait réussi à persuader Vargas de les inviter à dîner. Des séminaristes rompant leurs vœux de chasteté, Pépé en avait connu d'autres. La route menant au sacerdoce était faite de doutes et de détours. Quand les plus zélés abandonnaient leurs études théologiques, les conséquences émotionnelles et psychologiques de la reconversion étaient, selon lui, parfois brutales. Bien sûr, Edward Bancho s'était posé la question de savoir s'il était ou non homosexuel, ou s'il était amoureux d'une personne dotée d'une poitrine de femme et d'un sexe d'homme. Ne dit-on pas que les homos sont rarement attirés par les travestis? Pourtant, certains gays étaient attirés par les travelots. En conséquence, faisaient-ils partie d'une minorité sexuelle au sein d'une minorité? Frère Pépé n'avait que faire de ses arguties. L'amour, il le trouvait au fond de lui-même. Et les préférences sexuelles d'Edward Bancho ne regardaient que lui. Il se fichait qu'il ait tardivement découvert son penchant homosexuel, qu'il abandonne le sacerdoce ou qu'il soit obsédé par un travelot bien membré. D'ailleurs, il aimait bien Flore. Quoique son statut de prostituée lui posa problème, pas nécessairement pour des raisons cliniques, contrairement au docteur Vargas. Il savait qu'elle avait toujours eu des ennuis. C'était une femme à histoire. Houston avait bon dos, alors qu'Edward Bancho avait à peine vécu. Qu'est-ce qu'un couple aussi mal assorti pourrait bien faire dans l'Iowa? Là, Edward Bancho allait trop loin. Flore ne se connaissait pas de limite. Quant à Flore, Dieu sait ce qu'elle pensait. « Je trouve que tu es un homme perroquet adorable », avait-elle déclaré à l'homme de l'Iowa. « J'aurais dû te rencontrer. Quand j'étais môme, on se serait aidé à surmonter les emmerdes. Eh oui, frère Pépé aurait été d'accord avec ça. Mais n'était-il pas trop tard aujourd'hui pour eux deux? Quant au docteur Vargas et la façon dont il avait vexé Flore, Pépé aurait pu le mettre au parfum. Il fallait plus qu'une maladie sexuellement transmissible pour effrayer Edward Bancho. L'attirance sexuelle n'est pas une donnée strictement scientifique. Frère Pépé espérait que le scepticisme de Vargas aurait plus de prise sur Juan Diego et sur Lupe. Ils étaient déçus par la maravilla, enfin, Lupe surtout. Le docteur Vargas, à l'instar de Pépé, voyait d'un mauvais œil l'idée de lire dans la pensée des lions. Il avait examiné quelques-unes des petites acrobates, il les avait reçues dans son cabinet avant et après qu'Ignacio avait mis la main sur elles. Jouer les merveilles, c'était risquer la mort. Personne n'avait survécu à une chute de 25 mètres sans filet de protection. Mais passer dans le lit d'Ignacio donnait envie de mourir. Vargas, sur la défensive, avait reconnu devant Pépé qu'il avait d'abord pensé que le cirque serait une opportunité pour les deux enfants. Lupe, en qualité d'extra-lucide, n'aurait pas de contact avec Ignacio, et il n'était pas question d'en faire une acrobate. Mais il avait à présent changé d'avis. Que Lupe soit capable de lire les pensées des lions mettait la gamine de 13 ans en contact direct avec le dompteur, et ça, il n'aimait pas. Pour sa part, Pépé avait effectué un virage à 180 degrés. Il voulait ramener Juan Diego et Lupe aux enfants perdus. Là, au moins, ils seraient en sécurité. Quant aux ambitions acrobatiques de Juan Diego, Pépé avait le soutien de Vargas. Certes, le pied mutilé était parfaitement positionné pour l'exercice, mais Juan Diego n'était pas un athlète, et son pied valide était, dans ce cas particulier, son véritable handicap. Il s'était exercé dans la tente d'entraînement. Son pied valide avait dérapé de nombreuses fois sur la corde, et il s'était retrouvé par terre. Heureusement, ici, on ne risquait rien en tombant de l'échelle. Enfin, les enfants attendaient beaucoup du voyage à Mexico. Ce pèlerinage avec les cendres d'Esperanza inquiétait Pépé, lui qui était originaire de Mexico. Il savait quel choc ce serait pour les enfants de découvrir pour la première fois le sanctuaire de Guadalupe. Il connaissait leur intransigeance. Ils avaient horreur des démonstrations de foi sur la voie publique, et ils avaient leur propre religion, une religion infiniment personnelle. L'orphelinat n'aurait jamais accepté qu'Edward Pancho et frère Pépé accompagnent les gosses à la décharge à Mexico. Ils ne pouvaient pas laisser s'absenter ses deux meilleurs enseignants en même temps. Et Seigneur Eduardo tenait autant que les enfants à voir la basilique de Guadalupe. Quant à Pépé, il risquait autant qu'eux d'être scandalisé et écœuré par ce qui se passait autour de la basilique de Nuestra Señora de Guadalupe. Les foules qui se pressaient au sanctuaire le samedi matin avaient de quoi vous ravager le credo. Ce tableau, Vargas le connaissait bien. Ses adorateurs stupides, ses dévots frénétiques étaient l'incarnation de tout ce qu'il détestait. Mais Pépé se trompait s'il se figurait que le docteur Vargas avait le pouvoir de préparer les deux enfants et Edward Broncho aux foules de pèlerins. À ces hordes convergeant vers la basilica, sur l'avenue des mystères. L'avenue des misères, disait le docteur Vargas dans son anglais sans détour. Le spectacle, les deux enfants et le missionnaire devaient le voir de leurs yeux. Tout autre fut le spectacle du dîner à la Casa Vargas. Les statues grandeur nature des conquistadors, dans le hall et à l'étage, étaient criantes de vérité et bien plus intimidantes que les affriolantes poupées et toute la statuaire bigote en vente dans les boutiques de la Calle Independencia. Très réalistes, les redoutables guerriers espagnols montaient la garde sur les deux niveaux de la maison, telle une armée en campagne. Vargas n'avait rien changé dans la demeure de ses parents. Il avait vécu toute sa jeunesse en conflit avec eux, tant sur le plan religieux que politique, mais il n'avait pas touché à leurs tableaux, à leurs statues, ni à leurs photos de famille. Vargas était socialiste et athée. Il soignait les nécessiteux pour rien ou presque, mais il vivait dans une maison où tout, jusqu'au moindre détail, rappelait les valeurs familiales qu'il avait rejetées. Tout ce que ses parents représentaient, et qu'il leur reprochait, était placé en évidence, davantage pour le tourner en ridicule que pour le célébrer. C'était l'impression que ressentait Pépé. Il avait d'ailleurs dit à Edouard Bancho, Vargas aurait